Élément de connaissance. Alors, soyons des citoyens mieux informés. Radio Mandeléo, c'est l'heure du journal.
Nous sommes lundi 24 mars 2025. C'est l'heure de vous informer sur Radio Mandeléo à 6h passées de 15 minutes à Bukavu et à Nyangezi, en territoire de Walungu. D'abord, les titres de cette édition du journal. À la une de l'actualité, dans cette édition du journal, au moins 5 villages du groupement des Karongo Nyangezi en territoire de Walungu se sont vidés de leurs habitants la soirée des samedi et dimanche matin 23 mars 2025 suite au combat entre les éléments de l'AFC M23 et les Wazalendo, combat éclaté l'après-midi des samedi. Au sommaire également du sport avec le déplacement des Léopards de la République démocratique du Congo hier dimanche à Nouakchott en Mauritanie. Sur place, les Congolais seront reçus par les Mourabitounes en match de la 6e journée des éliminatoires de la Coupe du Monde 2026. Et dans la deuxième partie de cette édition du journal, l'inactivité de la société Bralima provoque un manque à gagner de plus de 300 000 dollars américains par mois pour les finances de la province. Expert en finances publiques, Ide Bakoulou propose le rétablissement de l'administration publique comme solution alternative à cette situation. Il est l'invité de la rédaction ce matin. Voilà tout pour les menus de l'actualité Radio Mandeléo en plusieurs lettres, les journaux en trois titres. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue.
Ce journal vous est présenté par Héritier Boroto.
De l'insécurité pour commencer cette édition du journal, au moins 5 villages du groupement de Karongo Nyangezi dans les territoires de Walungu sont déjà vidés de leurs habitants depuis la soirée des samedi et le matin de dimanche 23 mars 2025 dans la province du Sud Kivu. Ceci fait suite aux combats violents qui ont éclaté l'après-midi de samedi 22 mars entre des groupes armés Wazalendo et les éléments de l'AFC M23. Des sources locales parlent des éléments Wazalendo qui ont fait incursion dans ces villages situés dans les collines autour du centre des Mouni à Nyangezi et ont commencé à tirer plusieurs balles contre les positions de l'AFC M23. Les troupes de l'AFC M23 ont répliqué jusqu'à faire recours à l'arme lourde, causant une forte panique au sein de la population, expliquent des sources de l'administration locale. Les villages vidés de leurs habitants sont Chibimbi, Lukananda, Mulende et Nyamurambi, dont les habitants ont fui dans différentes directions, les uns se rendant à Kamanyola, à Bukavu ou encore pour se concentrer dans des endroits plus ou moins sécurisés. Au petit matin du dimanche 23 23 mars 2025, la situation est redevenue calme, permettant la reprise timide des activités au centre commercial de Mounia à Nyangezi, explique un commerçant contacté par Radio Maindeleo. Jusque dans l'après-midi de dimanche, il était difficile d'établir un bilan des affrontements, sachant que tout s'est déroulé dans les collines considérées comme zone rouge, explique nos sources sur place. Dans l'avant-midi, les troupes de l'AFC M23 se sont rendues dans les collines où ces éléments ouazalendo ont été signalés visiblement dans le souci de procéder à un ratissage. Sur le même axe, précisément à Nyantende dans les territoires des Kabaré, quelques tirs ont été entendus dans les collines surplombant l'entité dans la nuit de samedi à hier dimanche 23 mars 2025. Des sources locales parlent des jeunes armés qui ont semé la confusion. Ici aussi, des éléments de l'AFC M23 étaient visibles, faisant les contrôles pour dénicher les cachettes éventuelles des ouazalendo dans l'entité. Et l'Alliance Fleuve Congo AFC M23 a annoncé samedi son retrait des Walikale et Centre et ses environs dans la province du Nord Kivu à l'est de la République démocratique du Congo, 3 jours après avoir pris le contrôle de cette cité stratégique. Dans un communiqué publié samedi, le mouvement affirme que ces repositionnements visent à favoriser des conditions propices aux initiatives de paix et à un dialogue politique traitant des causes profondes du conflit. L'AFC M23 se réfère notamment à un cessez-le-feu unilatéral qu'il avait déclaré le 22 février dernier. Les groupes invitent les leaders communautaires et toute la population de Walikale à prendre des mesures nécessaires pour assurer la sécurité et la protection de la population civile et de leurs biens pendant cette intermission de bonne foi, ajoutent les communiqués. Ils avertissent pendant que toute attaque des forces armées congolaises FARDC contre leur position ou contre les populations dans les zones qu'ils contrôlent entraînera l'annulation immédiate de leur décision de retrait. Et la ministre des Affaires étrangères de la RDC, Thérèse Kayikwamba Wagner, a exprimé samedi 22 mars à Kinshasa, lors d'un café de presse, le souhait de voir le M23 concrétiser sa promesse de retrait des Walikale et ses environs. Nous venons d'apprendre cette déclaration du M23. Nous espérons que cette annonce se traduise par des actions concrètes. Il faut observer comment cela se matérialisera. La RDC cherche la paix à travers le dialogue, a déclaré Kayikwamba. Il rappelle la volonté de résoudre les conflits par la voie diplomatique. Devant les journalistes, la ministre a insisté sur la nécessité de voir le M23 honorer son engagement de retrait en s'inscrivant dans une logique de privilégier le dialogue, la paix et la préservation des vies humaines. Et les questionnaires pour la session spéciale de l'épreuve préliminaire de l'examen d'État édition 2024 et 2025 pour autodidacte sont arrivés à Goma, au Nord Kivu, le jeudi 20 mars. D'après une annonce de l'inspecteur principal provincial de la province éducationnelle du Nord Kivu, hier dimanche 23 mars 2025, il s'agit du thème destiné aux finalistes du secondaire des provinces du Nord Kivu et du Sud Kivu. Les inspecteurs principaux provinciaux de ces deux provinces s'étaient rendus à Kinshasa pour récupérer ces matériels essentiels. L'arrivée de ces colis sécurisés au bureau de l'Agence nationale des renseignements ANR de Goma dissipe les inquiétudes concernant la tenue de cette session spéciale dans ces provinces dont les chefs-lieux et plusieurs localités sont occupées par le M23. Cette épreuve préliminaire de l'examen d'État devrait se tenir le 7 mars, mais elle avait été reportée pour cette région dont la sécurité est instable. Ces reports avaient suscité une vive inquiétude parmi les élèves, les parents et les acteurs du secteur de l'éducation, rappelle Sosten Panga. L'inspecteur principal provincial rassure les candidats qu'ils n'ont rien à craindre pour la passation de cette épreuve. Au total, 619 candidats des 3 provinces éducationnelles touchées par la crise sécuritaire sont concernés par cette session spéciale de l'épreuve préliminaire de l'examen d'État édition 2024 et 2025. Il s'agit du Nord Kivu 1, Sud Kivu 1 et Sud Kivu 3. Mesdames et messieurs, vous suivez Radio Maindeleo à Bukavu et dans les territoires. Dans un court instant, la suite de cette édition du journal.
Suivez Radio Maindeleo en direct partout dans le monde sur www.radiomaindeleo.org. Pour être au parfum de l'actualité, visitez régulièrement les sites internet de Radio Maindeleo. Radio Maindeleo, c'est vous.
La suite de cette édition du journal, plus d'un mois après l'occupation de la ville de Bukavu par l'AFC M23, les activités se déroulent normalement aux frontières. Les mouvements d'entrée et de sortie ont repris sur un rythme habituel à la frontière, mais seul le commerce transfrontalier connaît une perturbation suite à la faible demande des consommateurs. Hélène Boudjiri.
Selon un constat fait au poste frontalier Ruzizi premier, par exemple, les Congolais en provenance de Bukavu s'alignent sur une file attendant des visas pour la traversée à la frontière avec le Rwanda. Les visas d'entrée ou de sortie concernent les voyageurs qui disposent des documents CPGL, des tenants lieux, des passeports et les passeports. Francis Amini, un habitant de Bukavu retrouvé à la frontière Ruzizi premier, explique la manière dont les opérations sont menées.
Je suis sorti à la maison à 8h pour la frontière. Je devrais faire quand même. Je suis sorti le matin, je suis arrivé à la frontière. Comme d'habitude, je suis arrivé au bureau, il y avait des agents. On a mis le visa sur le CPGL. Nous avons traversé vers le Rwanda. Il fallait aussi être à la ligne en attendant le visa. Quand on a mis le visa sur le CPGL, nous sommes traversés, nous sommes partis faire l'opération et maintenant là, je suis en train de rentrer.
Par ailleurs, les Congolais qui ne disposent pas des documents exigés pour la traversée peuvent s'en procurer directement à la frontière dans un guichet de la Direction Générale des Migrations des GEM. Sur place, les documents CPG les délivrent moyennant paiement de 10 dollars et 3 000 francs congolais et les tenants lieux des passeports à 45 dollars et 3 000 francs congolais. Au-delà de la traversée des personnes, des marchandises importées de l'étranger traversent également la frontière dans des camions. Dans les lots des vivres, l'on retrouve de la viande, des bœufs et des porcs, de la farine, des œufs et des légumes. Ce trafic est assuré par des petits commerçants transfrontaliers qui s'organisent en système de groupage, a constaté Radio Mahindi Léon. Ces derniers sont présents à la frontière, mais en petits groupes, et l'engouement autour de leurs marchandises est faible. Une source à la frontière aux Jésus premier indique qu'autrefois, des petits commerçants importaient un camion frigorifié avec 15 quartiers de viande, de bœufs par jour. Aujourd'hui, c'est à peine qu'ils importent 10 quartiers de viande de bœufs par jour, indique la même source. Par semaine, ajoute notre source, 4 camions des œufs traversaient la frontière, mais actuellement, c'est à peine que 2 camions sont importés en provenance du Rwanda. C'est le cas également pour la farine, qui habituellement prend la destination des territoires de Kalehe et de Mwenga, deux entités actuellement frappées par l'insécurité. Il s'est de préciser que les frontières sont ouvertes à Bukavu jusqu'à 18h.
Et dans ce même chapitre, les activités socio-économiques traînent à reprendre dans un rythme normal à la frontière des Kamanyola depuis la prise de cette cité de la RDC frontalière du Rwanda par les troupes de l'AFC M23 en date du 18 février dernier. Des sources contactées le week-end par la rédaction des radios Mahindé Léo indiquent que depuis les événements ayant conduit à la chute de cette cité, les activités qui faisaient vibrer l'entité n'ont pas repris leur cours habituel à l'Inkabika.
Jadis entité mouvementée par la présence des restaurants dans la zone frontalière avec de la viande grillée, le marché des fruits et légumes en plus d'une population constamment en mouvement, rien de tel n'est au rendez-vous depuis plus d'un mois maintenant. Sur place, aucun restaurant n'a ouvert ses portes, les petits commerçants sont carrément invisibles, alors que le petit marché est désormais désert. Les mouvements des motos et véhicules ont laissé la place au vent qui souffle à partir de la rivière Ruzizi. Le flux important d'importation des marchandises en provenance des pays étrangers n'est pas au rendez-vous. Ceci s'explique par le fait que les importateurs seraient encore en dehors du pays et d'autres continueraient toujours à craindre pour leur sécurité. Il faut néanmoins noter que le trafic entre Bukavu Kamanyola via le Rwanda reste opérationnel pour les agences de transport et d'autres catégories de passagers, alors qu'il était possible de manquer une chambre d'hôtel au regard d'une forte sollicitation de la clientèle. Actuellement, les hôteliers de Kamanyola indiquent n'avoir eu aucun client depuis le début de ces événements. En clair, a indiqué l'un d'eux contacté par Radio Mahindé Léo, aucun passager n'a le goût de passer la nuit à Kamanyola dans les contextes sécuritaires actuels. Malgré les retours progressifs des habitants qui avaient fui vers les Burundis, le secteur du tourisme reste donc sous le choc dans cette entité de plus de 100 000 habitants. À ceci s'ajoute le fait qu'il soit difficile pour le moment d'effectuer des mouvements aisés entre Kamanyola et Uvira. En effet, pour quitter Kamanyola et se rendre à Uvira actuellement, il faut passer par plusieurs chemins parfois loin de la route principale. Une fois à Katogota, explique des témoins, les passagers sont obligés de dévier vers Lubarika avant d'atteindre Luvungi et ainsi poursuivre les voyages, ce qui entraîne une forte répercussion sur les prix du transport, qui du reste n'est possible que par moto.
Et la crise économique à laquelle fait face la province du Sud qui vous plie d'un mois après l'arrivée des troupes de l'AFC M23 n'épargne pas les opérateurs économiques qui évoluent dans les secteurs des ventes et des friperies, plus précisément les habits, chaussures et autres accessoires dans différents magasins à Bukavu. Les opérateurs économiques œuvrant dans ces secteurs ont du mal non seulement à s'approvisionner en marchandises, mais aussi à écouler les peu dont ils disposaient encore avant les perturbations liées à la guerre. Mapendolinda.
Dans un entretien avec Radio Mindeléo, certains opérateurs économiques œuvrant dans ces secteurs ont révélé plusieurs difficultés auxquelles ils font face depuis le 14 février de l'année en cours. Avant cette crise, au moins 10 à 20 containers de fruits constitués de souliers, habits et autres accessoires étaient déchargés à Bukavu chaque mois. Ceci permettait aux opérateurs économiques de ces secteurs d'avoir un accès facile et rapide à la marchandise, chacun selon sa spécialité, fait savoir l'un d'eux, Paul Chito, président directeur général de l'entreprise Sokos, dont la spécialité est la friperie. Il ajoute que le gros de leurs marchandises proviennent des États-Unis et de l'Europe, mais avec la situation actuelle, plusieurs fournisseurs sont bloqués à l'étranger, craignant pour leur sécurité, d'autres ont quitté carrément la ville de Bukavu, et d'autres encore ont vu leurs dépôts être pillés. Le PDG de l'entreprise Sokos ajoute que les rares fournisseurs qui prennent les risques amènent un ou deux containers avec des conséquences sur les prix. La plus grande de difficultés réside au niveau de la vente qui s'est fait à compte-gouttes, explique Paul Chito, qui ajoute qu'il est possible de passer deux ou trois jours sans vendre un seul article. On l'écoute.
Gloire à Dieu, on a ouvert, mais malheureusement, nous sommes en train de travailler dans un contexte qui est hors norme. Nous avons difficulté beaucoup par rapport à nos fournisseurs qui ne sont plus à mesure de nous fournir comme il faut. Vous savez très bien que la vente, c'est la force pour un entrepreneur que nous sommes. Il y a cette absence, je dirais absence, ce n'est pas baisse des ventes, mais absence des ventes. Dirons que ces derniers temps, nous vivons par grâce. On peut trouver un client la journée et on rend grâce à Dieu. Mais ces derniers temps, nous vivotons. La plupart de nos clients, c'était le gouvernement qui n'est plus là, qui ne travaille pas. Et les gens des ONG, ils ne travaillent plus. Également, les expatriés qui ne sont pas à Bukavu. Donc, nous, c'est une situation qui est critique. Aux bailleurs, de comprendre que la situation qu'ils sont en train de traverser, c'est un peu étrange et c'est à eux d'être flexibles quant à cette circonstance.
Au nom des entrepreneurs dans ces secteurs, les responsables de l'entreprise Sokos estiment que le propriétaire des maisons commerciales devrait être tolérant face aux entrepreneurs pendant cette période particulière.
Et aucun commissionnaire ne peut intervenir dans une entité quelconque pour une opération d'achat ou de vente des parcelles dans la ville de Bukavu sans la présence de l'autorité des bases qui doit contre-signer tout acte d'achat et de vente. Cette résolution est issue de la rencontre qu'a tenue le maire de Bukavu, Ladislas Muganza Wakandwa, et une délégation des commissionnaires de la ville de Bukavu le week-end dernier. Le maire de Bukavu précise que même si le commissionnaire est muni d'une procuration des concessionnaires, il a l'obligation de chercher les chefs de quartier concernés avant de procéder à une opération de vente ou d'achat. Cette résolution est prise après avoir constaté des dérapages et morcellement désordonnés dans les chefs de commissionnaires avec les risques d'occasionner des conflits à l'avenir. Ainsi, aucun agent du cadastre, titre foncier, urbanisme ou habitat ne peut opérer dans un quartier sans l'autorisation du chef de quartier, une façon de valoriser la fonction de l'autorité des bases, ainsi lutter contre les tracasseries, l'escroquerie et la manipulation de tout genre. Au cas où une opération de vente ou d'achat serait faite sans la présence du chef de quartier, la mairie se réserve le droit d'annuler car dans chacune d'elles, il y a une quotité de l'État qui doit être récupérée par l'autorité des bases. Le maire de Bukavu, Ladislas Muganza Wakandwa, en parle.
Nous avons aussi parlé de la vente de parcelles. Et là, nous sommes convenus, tel que c'est prévu dans leur organisation, que le commissionnaire a droit à 5% sur la vente et l'achat, c'est-à-dire 2,5. Mais le commissionnaire ne peut intervenir dans une entité, quartier ou avenue, sans la présence de l'autorité de base, c'est-à-dire le chef de quartier. Il doit contresigner tout acte de vente et d'achat. Il a été aussi convenu que aucun agent du cadastre, titre foncier, urbanisme, habitat, TP ni assainissement, ne doit opérer dans un quartier sans l'autorisation ou sans l'accompagnement du chef de quartier.
Et dans les cas contraires, si le cadre de base n'est pas associé,
nous sommes dans le droit d'annuler cette opération de vente ou d'achat parce qu'il y a aussi la quotité de l'État dans cette opération qui doit être récupérée par l'entremise de l'autorité de base.
Et le père xavérien Giovanni Kerzani fête son anniversaire de naissance le 28 mars 2025. Ce missionnaire catholique a réalisé plusieurs œuvres concrètes en faveur de la communauté, après celle héritée du colon belge dans la commune de Kadutu à Bukavu. Les œuvres sociales et caritatives du père Giovanni Kerzani dans cette commune sont palpables. Il s'occupe des enfants en détresse, malnutris, délaissés ou abandonnés par les parents. Il s'occupe également également des malades orphelins et paye aussi les frais scolaires pour les enfants et mamans pauvres et aux veuves. Celui-ci a créé un centre de formation pour la coupe et couture et à la fin des formations, il donne des machines. Il a construit une église qui héberge aujourd'hui la paroisse Sainte-Trinité de Bouolo 3, une grande salle de la paroisse de Kadutu appelée salle Mouroula et une école maternelle. Trois écoles dont Matendo, Bakanja sur avenue industrielle et Saint-Pio à Chimpunda, une grande maison pour les enfants en détresse à Kadutu et notre grand centre pour les jeunes en face de la prison centrale de Bukavu. Les enfants sont soignés gratuitement et il a construit plus de 100 maisons pour les pauvres. Et avant la deuxième partie de cette édition du journal, les sièges de la régie des eaux Bukavu, direction régionale du Sud Kivu, risquent d'être dans l'impossibilité de continuer à desservir de l'eau si ses abonnés ne payent pas leurs factures de consommation d'eau. Ces difficultés pourraient s'expliquer par la rupture des produits chimiques pour traiter de l'eau, la livrer et réparer les fuites en cette période où la régie des eaux ne compte que sur des abonnés ordinaires ou abonnés domestiques. Alain Kabeka.
C'est ce qu'indique le chef ad intérim du service commercial de la régie des eaux, Jean Dédieu Tchabouiné, dans un entretien avec la presse locale le week-end dernier. Pour lui, la seule façon de permettre la poursuite de la desserte en qualité et en quantité, c'est que les abonnés paient leurs factures actuelles et anciennes. En cette période où des grands abonnés comme la Bralima et d'autres ONG sont en arrêt d'activité et que le Sud Kivu est coupé de Kinshasa, les abonnés doivent faire des bonnes fois pour éviter tout désagrément dans la fourniture, explique Jean Dédieu Tchabouiné.
La régie des eaux ces derniers temps compte beaucoup sur eux, du fait que ces derniers temps nous traversons une période très très difficile. On est coupé avec Kinshasa, nos grands abonnés, les ONG ont fermé, la Bralima ne travaille pas, notre grand consommateurs et notre grand abonné. Et donc, nous comptons que sur les ménages de Bukavu, que les familles de Bukavu viennent d'eux-mêmes payer leurs factures de consommation d'eau pour nous aider à les servir. Nous n'avons pas d'autres sources de revenus que les moyens nous donnés par eux, nos abonnés. Il y a des avancées, oui, parce que Murundu n'a pas fermé. Nguba est en train de pomper de l'eau. Il y a des avancées, l'eau est presque partout. Nous pensons qu'avec les moyens que la population pourra nous donner, nous allons encore améliorer davantage. Si elle ne paye pas, nous risquerons de fermer Murundu, nous risquerons de fermer les vannes parce qu'on ne peut pas fournir à la population de l'eau non traitée.
Le chef des services commerciaux ad intérim de la régie des eaux Bukavu, Jean Dédieu Kwibuka Tchabouiné, annonce que des agents passeront de porte à porte pour vérifier les preuves des paiements et solliciter les paiements des factures en souffrance et même mettre en application les dispositions pour les abonnés non en règle.
La passion du sport, c'est sur les ondes de la radio Maeneleo. Du lundi au samedi, retrouvez toute l'actualité sportive dans sa diversité sur la meilleure des fréquences.
Et en sport, les Léopards de la République démocratique du Congo se retrouvent déjà à Nouakchott en Mauritanie. Ceci pour y affronter le mardi 25 mars les Mourabitounes de la Mauritanie pour le compte de la sixième journée des éliminatoires de la Coupe du Monde 2026. Les Léopards ont quitté Kinshasa samedi avec pour objectif d'aller s'imposer en Mauritanie pour prendre la première place au classement dans leur groupe. Actuellement, la RDC est deuxième avec 10 points. Le Soudan occupe la première position avec 11 points et le Sénégal occupe la troisième place avec 9 points. Pour rappel, la RDC a battu le Soudan du Sud le vendredi dernier à Kinshasa sous le score étriqué d'un but à zéro. Cette victoire a permis à la RDC de quitter la troisième place à la deuxième place au classement provisoire de ces éliminatoires.
Radio Maeneleo, la radio de développement, place à l'invité du journal.
J'ai l'annoncé au sommaire de cette édition du journal. L'inactivité de la société Bralima provoque un manque à gagner de plus de 300 000 dollars américains par mois pour les finances de la province du Sud Kivu. Selon Idé Bakoulou, expert en finances publiques, la Bralima est la plus grande contributrice pour les trésors publics provincial. En plus, cette société verse des contributions considérables et paye des taxes, droits et impôts à plusieurs autres entités dont la Direction générale des impôts DGI, l'Office congolais de contrôle OCC, la Direction générale des douanes et assises des GDA, la régie des eaux ainsi que la SNEL. Sur le plan économique, la province sera frappée de plein fouet par cet arrêt, mais des solutions alternatives sont envisageables si l'administration publique est opérationnelle, fait savoir Idé Bakoulou. Invité de la rédaction ce matin, Idé Bakoulou s'entretient avec notre confrère Expedi Kialou.
Monsieur Idé Bakoulou, Magadjou, bonjour. Bonjour monsieur le journaliste.
C'est depuis plus d'un mois que les portes de la société Baralima sont fermées. Quel est l'impact de l'inactivité de la société Baralima sur les finances de la province du Sud?
Les conséquences de la fermeture de la Baralima sont énormes, c'est même sur le niveau national. La Baralima, c'est la plus grande société du Sud Kivu. C'est-à-dire les finances de la province sont alimentées pour une grande partie, en tout cas en tant que société contributrice, par la Baralima. Donc sur le plan des finances, c'est catastrophique, évidemment. La Baralima paye à la province, en tant qu'entité, autour de entre 230 et 250 000 dollars par mois. Et ça, c'est seulement pour la consommation, une taxe à la consommation. La Baralima paye beaucoup d'argent aussi en termes d'impôts sur les revenus locatifs, parce que la Baralima loue beaucoup de choses ici, mais aussi beaucoup d'impôts sur des impôts fonciers. Donc ça, c'est au niveau de la province. Et du coup, vous voyez, c'est autour des 300 000 dollars de manque à gagner qui est entraîné par la fermeture de la Baralima. Au niveau national, la Baralima est vraiment une grande société contributrice pour toutes les entités étatiques qui sont ici. Si tu prends par exemple en termes d'accises, la Baralima paye autour de 5 milliards de francs congolais par mois. Et d'ailleurs, autour de 560 milliards, tu vois, c'est carrément 2 millions de dollars. Donc ça aussi, c'est un manque à gagner. La Baralima paye à la SNEL beaucoup d'argent, autour de 500 millions de francs congolais. La Baralima paye à la Régie des Eaux autour de 370 millions de francs congolais. La Baralima paye à l'OCC autour de 95 millions de francs congolais. Et au niveau du transport, par les lacs, par les routes, consorts, la Baralima paye autour de 2 milliards de francs congolais par mois. Et quand on parle maintenant au niveau de la province, au niveau économique, si tu prends tout le personnel de la Baralima, tout ce que la Baralima paye comme sous-traitance, tout ce qu'il paye à l'INPP, à la CNCS, à l'ONEM, c'est beaucoup d'argent. La masse salariale de la Baralima, elle est énorme. Donc, la Baralima pèse, elle pèse lourd dans la province du Sud Kivu, et sa fermeture est vraiment une très très mauvaise nouvelle pour notre province. Et cela sans parler maintenant, sur le plan de ce que la Baralima paye à ses différents fournisseurs, notamment les fournisseurs locaux. Tous ces fournisseurs de riz, moi je connais trois coopératives agricoles qui vivent grâce à la Baralima.
Au-delà du trésor public national et de la province du Sud Kivu, quels sont les autres et des services d'assiette tels que vous les avez énumérés, ou disons les services qui interviennent dans la collecte des impôts et taxes dues à l'État? Quelles sont les autres entités les entités territoriales décentralisées qui attendent des parts de la Baralima?
Bon, à ce niveau-là, l'État quand même fait quelque chose de bien. Parce que ce que la Baralima paye à la province, c'est carrément des impôts de droit commun. C'est-à-dire, la Baralima paye à la province et à la province de rétrocéder à toutes les autres entités décentralisées le 40% de ces taxes et impôts de droit commun. Donc, sur les 300 000 à peu près, c'est-à-dire tout inclus, taxes sur la consommation, les divers impôts, notamment l'impôt sur les revenus locatifs, l'impôt foncier, les impôts sur les véhicules et consorts, sur tout ça, les entités ont quelque chose, mais c'est la province qui collecte.
C'est-à-dire donc, de quelque part, les finances de la ville de Bukavu et des communes telles que Kadutu et Bagira seront affectées.
Mais bien sûr, elles seront terriblement affectées, non seulement en termes d'impôts directs, mais dans toutes ces communes-là, il y a beaucoup maintenant d'emplois indirects de la Baralima. Tous les dépôts relais, tous les bars et consorts. Donc tout cela est impacté et les communes vont être sérieusement impactées par la fermeture de la Baralima.
Monsieur Idé, comme analyste sur les questions des finances et d'économie, qu'est-ce qu'il faut en réalité pour que la société Baralima reprenne service?
Nous devons faire très attention. Dans la région ici, nous avons trois grandes sociétés de Heineken. Il y a la Baralima Bukavu, il y a la Bralirwa au niveau de Gisenyi, et il y a la Brarundi au niveau du Burundi. Au niveau des charges, Heineken pourrait bien se passer des charges de production, tous ces 10 milliards ici pour produire la Primus et toutes les autres bières ici, parce que toutes ces bières de la Baralima sont aussi produites chez les entreprises sœurs. Heineken, comme une entreprise qui cherche le profit, peut bien se passer de toutes ces charges, encourager les entreprises sœurs à produire, et puis nous importons. D'ailleurs, c'est ce qu'on fait maintenant. Donc, nous devons faire en sorte que nous négocions vraiment avec tout le monde qui peut négocier pour que l'entreprise Baralima commence. Mais il faut savoir que une des raisons majeures pour laquelle l'abralimat aurait du mal à commencer, c'est la fermeture des banques. L'abralimat, c'est une société très liquide. Très liquide, ça veut dire qu'il y a beaucoup de l'argent en cash. Et cet argent, l'abralimat n'a pas de coffre chez elle. L'abralimat doit déposer cet argent dans nos banques. Donc, les autorités devraient multiplier des efforts pour qu'il y ait ouverture des banques.
Et devant une telle situation qui s'avère complexe pour l'autorité provinciale en place, quels peuvent être les mécanismes alternatifs pour mobiliser les ressources en vue de couvrir les charges publiques, considérant qu'il y a un manque à gagner important de plus de 300 000 dollars qu'il faut combler chaque mois?
La première chose, il faut que l'administration locale, notamment l'administration provinciale, il faut qu'elle soit remise en fonction. Tous ces services de l'État qui collectent les impôts et taxes, qui encadrent aussi la vie publique, doivent reprendre. La deuxième chose, c'est le moment maintenant, effectivement, pour l'autorité qui est en place, d'appliquer carrément le 40% de rétrocession pour la province, je veux dire. Et cela, aujourd'hui, on ne peut compter que beaucoup plus hein, sur les revenus issus de la douane, notamment les importations. Et là, il faut qu'on ouvre l'œil et le bon. Il faut vraiment que le contrôle à la douane soit très sérieux pour que, effectivement, la province fasse entrer de l'argent. Au niveau de la province, il y a beaucoup de charges à supporter. Et il faut que l'autorité provinciale ait de l'argent pour supporter ces charges-là.
Monsieur Idébakoul, nous vous remercions.
Merci beaucoup.
Et c'est par cette note que nous mettons un point final à cette session d'information matinale sur Radio Maïndéléo. Merci à toutes et à tous de l'avoir suivi avec attention. Mais si vous nous avez pris en cours de diffusion, voici les rappels des titres. Au moins 5 villages du groupement des Karongo Nyangezi en territoire de Walungu se sont vidés de leurs habitants la soirée de samedi et hier dimanche matin 23 mars 2025 suite au combat entre les éléments de l'AFC M23 et les Wazalendo. Combat éclaté l'après-midi de samedi. Vous l'avez suivi en sport avec le déplacement des Léopards de la République démocratique du Congo à Nouakchott en Mauritanie. Sur place, les Congolais seront reçus par les Mourabitounes en match de la 6e journée des éliminatoires de la Coupe du Monde 2026. Et dans la deuxième partie de cette édition du journal, l'inactivité de la société Bralima provoque un manque à gagner de plus de 300 000 dollars américains par mois pour les finances de la province. Expert en finances publiques, Idébakoulou propose le rétablissement de l'administration publique comme solution alternative à cette situation. Il était l'invité de la rédaction ce matin. La mise en œuvre était celle d'Anissé à Konkwa. À la présentation, Héritier Boroto. Excellente matinée et bonne humeur chez vous en compagnie des programmes des Radio Maïndéléo. Tout à l'heure, cette même édition en version Swahili avec notre confrère Alain Kabika. Retrouvez-la donc sur le www.radiomaïndéléo.org. D'ici là, portez-vous bien. Prenez soin de vous et surtout de vos proches. Chaque jour est une vie. Au revoir.